Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui vous accompagne au cours des 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Le docteur Alain Vadeboncœur, que vous connaissez peut-être, ayant été animateur de l'émission Les Docteurs, également, il écrit, alimente le blog sur l'actualité. Il vient d'écrire un livre, son dernier livre, « Les acteurs ne savent pas mourir », ici d'un urgentologue, où il livre ses réflexions sur la mort, sur la médecine d'urgence qu'il pratique depuis près de 25 ans, également la maladie, le décès des gens qu'on aime, et puis finalement sur la vie. Je pense que c'est surtout un récit sur la vie et je m'entretiens avec lui en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, selon une équipe de recherche de l'Université du Québec à Trois-Rivières, les jeunes âgés de 2 à 17 ans qui vivent avec une limitation fonctionnelle ont 2 à 3 fois plus de chances de présenter des problèmes d'embonpoint, d'obésité et également d'être sédentaires. J'en parle avec l'un des chercheurs de cette étude, Romain Hult, dans quelques instants. Rapport sur l'étude des facteurs facilitant l'adoption de saines habitudes de vie et la pratique d'activités physiques et sportives par les jeunes ayant une limitation fonctionnelle. C'est le nom de cette étude menée dans le cadre du projet Choisir de gagner, une initiative du défi sportif AlterGo. Romain Hult, vous en êtes l'un des chercheurs avec votre équipe de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quels étaient les objectifs de cette étude-là au départ?
En fait, il y avait deux objectifs centraux de recherche qui étaient un peu de distinguer les facteurs déterminants environnementaux et parallèlement sociaux qui, dans un cadre scolaire, pouvaient inciter des jeunes, principalement préadolescents, adolescents, à adopter des saines habitudes de vie et surtout à faire différentes formes d'activités physiques et sportives, principalement encadrées, supervisées. Donc, on a vraiment regardé ça sous l'angle de ces deux objectifs, donc environnementaux et sociaux principalement.
Et vous vous êtes promené partout au Québec?
Ben, c'est ça. On a visé toutes les commissions scolaires. On les a incités à participer à l'étude. Finalement, 15 écoles dans 10 régions administratives différentes ont accepté de nous accueillir pour qu'on puisse faire nos différentes observations sur le terrain et nos entrevues, que ce soit avec des jeunes, mais également des intervenants, des directeurs d'école, mm-hmm. ainsi que certains parents. On a beaucoup regardé des cas propres à des milieux urbains, mais également périurbains et dans certains cas vraiment régions éloignées.
Et puis, vous avez visité davantage des écoles dites régulières ou plutôt spécialisées?
Ben, on essaie d'avoir, je dirais, une part assez égale. Par contre, on a pu quand même finalement avoir des retours davantage au niveau des écoles régulières. Et puis en même temps, c'était intéressant parce que c'est une manière de voir dans un contexte qui n'est pas entièrement spécialisé, ben, comment on essayait d'accueillir cette clientèle ou ces clientèles à besoins spécifiques. Alors pour nous, ça nous permettait encore une fois de mettre en avant des résultats qui étaient peut-être plus parlants ou en tout cas moins qu'on revoit un peu moins souvent dans la littérature existante sur le sujet.
Romain Hult, à travers cette étude, vous avez eu l'occasion donc de visiter beaucoup d'écoles, de rencontrer beaucoup d'enfants. Parlez-nous de ces enfants-là qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Ils ont entre quel âge et quel âge? Quel est leur portrait?
Ben, en fait, nous, notre échantillon a visé des jeunes entre 4 et 21 ans, mais c'est principalement quand même un échantillon qui était de préadolescents et d'adolescents. Au niveau de la littérature, on voit clairement que, au Québec, on parle environ de 37 000 jeunes, le nombre de personnes âgées de moins de 14 ans à avoir des incapacités physiques ou intellectuelles. On voit également que ce sont des jeunes qui présentent souvent des problèmes d'embonpoint ou d'obésité beaucoup plus conséquentes que des clientèles plus régulières ou dites valides. Parallèlement aussi, ce sont des clientèles, surtout dans des écoles régulières, qui ont de gros problèmes à s'intégrer dans les cours ou bien entendu peuvent être dans des classes spécialisées. Mais quand on parle d'activités physiques et sportives, il y a une problématique particulière. Est-ce que ce sont des jeunes qu'on va pouvoir intégrer dans des pratiques, donc je dirais sportives dites régulières, ou est-ce qu'on les met à la marge? Si on les met à la marge, bien entendu, ça peut avoir des répercussions sociales, psychologiques sur le jeune, certaines formes d'exclusion. Quand on choisit de les intégrer, est-ce qu'on est capable de les intégrer complètement ou pas du tout? Donc, il y a tout un questionnement qui est présent à ce titre, et que ce soit notre recherche, mais plus globalement, le projet Choisir de gagner tente de mettre en avant pour conscientiser, je dirais, des acteurs, oui scolaires, mais également publics, parapublics ou privés, de cette problématique qui est connue, mais qui n'est pas toujours très, très bien prise en charge. Mmh. Et on voit clairement que ce sont des jeunes qui ont d'importants besoins, puis que ce soit au niveau, oui, des cours, mais également par rapport à des supports sociaux, supports familiaux aussi. Et on peut parler aussi de toute la question de l'environnement, de l'adaptation de l'environnement de pratique. Ça, c'est quelque chose de très important, un besoin essentiel pour ces populations.
Oui, parlons-en, parce que ça ressort beaucoup dans cette étude, l'environnement de ces jeunes-là, c'est-à-dire l'aménagement également. Mmh. Est-il suffisant? Est-il adéquat?
Quand on parle d'écoles spécialisées, on s'entend que ce sont des établissements qui ont pour mission première d'accueillir ces clientèles. Alors, la plupart du temps, et notamment via les observations qu'on a pu mener, les aménagements sont adéquats. Après, c'est davantage au niveau des ressources, peut-être humaines, qui sont disponibles pour animer ces ateliers-là. Par contre, quand on traite des écoles régulières, là, il y a énormément de besoins ou de problématiques relatives à l'aménagement des gymnases, l'aménagement des différents plateaux sportifs intérieurs et extérieurs, et également tous les espaces que nous on qualifie de connexes, notamment les vestiaires ou les corridors, pour accéder à ces plateaux sportifs qui sont souvent mal adaptés et qui deviennent des embûches, voire des obstacles majeurs pour ces clientèles. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces écoles-là ont potentiellement les moyens financiers pour aménager ces espaces-là, mais par un manque de connaissance des besoins, des attentes de ces clientèles, ne savent pas toujours quoi acheter ou quoi adapter pour finalement répondre aux besoins de ces clientèles qui, dans ces écoles régulières, ont souvent des déficiences spécifiques, mais on ne retrouve pas toujours le spectre de toutes les déficiences, toutes les limitations physiques et intellectuelles qu'on peut retrouver dans des écoles spécialisées. Alors ça, c'était quelque chose qui est intéressant qu'on a pu soulever à travers notre étude.
Donc, les milieux scolaires ou encore le personnel ne seraient pas suffisamment formés ou sensibilisés à cette réalité-là chez ces jeunes-là.
Oui, tout à fait. La question de la formation, la question de connaître ces clientèles-là, de connaître leurs besoins, en particulier au niveau de l'activité physique et sportive, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que globalement, les professeurs, les techniciens, les éducateurs également, les directeurs ont un besoin, ont une motivation importante à chercher à intégrer ces jeunes. Par contre, donc vis-à-vis de groupes que je qualifie de réguliers ou valides, mais n'ont pas toujours les connaissances pour savoir de quelle manière ils peuvent les intégrer, de quelle manière aussi sensibiliser leur environnement, donc les parents de ces jeunes-là, à l'importance de faire du sport ou de l'activité physique, et également de sensibiliser le reste du groupe de jeunes valides aux besoins de ces clientèles spécifiques. Et ça, c'est quelque chose de fondamental.
Et en même temps, il y a beaucoup d'impacts positifs à l'adoption d'activités physiques chez ces jeunes-là qui vivent avec une limitation fonctionnelle.
Ah, tout à fait, tout à fait. C'est indéniable. Ces jeunes-là, en étant inclus dans ces cours ou dans ces activités physiques, leur sentiment de bien-être, leur estime de soi est bien entendu valorisée énormément. Le fait aussi de la capacité de nouer des interactions sociales avec d'autres jeunes, ça, c'est également quelque chose qui est très ressenti, surtout à l'âge de l'adolescence, qui est une période charnière dans la vie. On voit aussi également la possibilité de se dépasser, de se fixer des objectifs que de prime abord, ces jeunes n'avaient pas en tête ou ne pensaient pas atteindre. Il y a aussi toute la question aussi de l'apprentissage de nouvelles connaissances au niveau de l'activité physique et sportive. Et ça a des répercussions dans leur sphère bon, que je qualifie de scolaire, mais également dans leur sphère plus personnelle et le lien qu'ils peuvent tisser avec, avec leur famille. On voit par exemple des jeunes qui vont participer à des activités physiques et sportives dans un cas scolaire et vont, en fonction des succès qu'ils vont rencontrer, ils vont souhaiter éventuellement faire de nouveau ces activités, mais dans un cadre extrascolaire et éventuellement avec leur famille. Ça, c'est quelque chose de très fort, de très symbolique dans les résultats qu'on a pu ressortir.
Romain Roult, on a parlé de l'impact de l'environnement scolaire, un peu moins de la communauté locale. Elle a aussi des impacts sur l'intégration de ces jeunes-là.
Ah, tout à fait. La famille, premier cercle de ces jeunes-là, c'est quelque chose de très important. On voit souvent dans des milieux plus défavorisés, avec moins de moyens financiers, que la question du sport est des fois un peu moins présente. Aussi, les moyens financiers peuvent avoir une répercussion sur la capacité de la famille à amener le jeune sur certains plateaux sportifs pour qu'il pratique son sport. Donc ça peut avoir des répercussions majeures. Donc si il y a des disponibilités, des aménités qui sont en place pour aider ces familles à amener ces jeunes à pratiquer. Parallèlement, tout un effort de sensibilisation de l'importance des saines habitudes de vie et du sport, ça c'est quelque chose de central. Également, quand on parle de communauté, c'est toute la question aussi des milieux de vie de ces jeunes, que ce soit le quartier, l'arrondissement ou des villages, par exemple. L'idée que bien ces jeunes-là sont présents, ont eux-mêmes des besoins, ont eux-mêmes des envies, que ce soit sur le plan sportif ou autre. Et à ce moment-ci, ben, c'est de sensibiliser ces élus, ces acteurs du monde du loisir pour aider ces jeunes à pouvoir s'intégrer et à vivre comme les autres, finalement.
Et on fait comment pour les sensibiliser?
Ben, ça passe beaucoup par des logiques de partenariat qu'on voit globalement dans d'autres sphères du loisir ou du sport, par, oui, des efforts de sensibilisation où souvent l'école est au centre de ces actions-là. C'est quand même le milieu de vie central de ces jeunes-là. Alors, l'école, à travers ses instances, puis différents acteurs du monde parapublic, comme par exemple les personnes du projet Choisir de gagner, ont un rôle finalement pour sensibiliser cette communauté-là. Donc ça peut passer par des séances d'information, mais ça peut aussi passer par ce que j'appelle des événements symboliques, c'est-à-dire des événements un peu plus grand public que l'on aménage, que l'on met en place dans ces communautés pour sensibiliser ces populations à la présence de ces jeunes, à la présence de ces familles et au fait que c'est pas parce que ces jeunes ont ces formes de handicap-là qu'ils ne peuvent pas pratiquer des activités physiques et sportives. Et ce qu'on a vu, ce qui est intéressant aussi dans le cadre de notre étude, c'est que y a certains professeurs qui ont mis en place des activités de sport adaptées, mais en incluant non seulement les jeunes qui avaient des limitations fonctionnelles, mais également des jeunes sans limitations. Et on voit que ces jeunes sans limitations n'ont pas une baisse de leur plaisir à faire ces activités adaptées, voire même dans certains cas, découvrent des nouvelles choses et sont stimulés à les pratiquer. Et donc ça, ces types d'événements-là ont une importance capitale parce que c'est une forme de sensibilisation de ces besoins et de ces préoccupations-là. Et on pourrait le faire à une plus grande échelle, donc à l'échelle d'une communauté, pas simplement à l'échelle d'une école. Et ça a un impact majeur pour créer de nouveaux types de partenariats, par exemple.
On entend quoi par sport adapté?
Ben, ça peut être une activité qui est par exemple une activité de soccer avec un plus gros ballon. Ça peut être aussi une activité de basketball en fauteuil roulant. Ça peut être aussi une activité, je dirais, classique, mais avec des règles qui sont adaptées, c'est-à-dire que les lignes du terrain sont plus éloignées, que la durée de possession de balle est également plus longue. Donc ça peut être aussi au niveau de la réglementation que ça peut jouer.
Romain Roult, y a-t-il une différence? Parce qu'il y a une étude qui est sortie récemment que j'avais eu la chance de lire sur l'adoption d'activités sportives chez les jeunes filles qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Donc, y a-t-il une nuance entre les jeunes garçons et les jeunes filles?
Ben, dans notre recherche, on n'a pas vraiment mis ça en lumière. C'était pas un objectif central. Mais si on se fie en effet à certaines des recherches, que ce soit au niveau des jeunes avec une limitation fonctionnelle, mais plus généralement des clientèles adolescentes, on voit clairement que quand on parle d'activités physiques et sportives, ce sont des clientèles avec des besoins et des attentes différentes. Souvent, Les garçons, les jeunes garçons, les adolescents ont un souci de pratiquer des sports dans un cadre très souvent compétitif, alors que la notion de plaisir, la notion de découverte, la notion d'interaction sociale pendant une pratique sportive est beaucoup plus importante pour, par exemple, les clientèles féminines.
Et une différence en terminant avec les jeunes en région et ceux en milieu urbain?
Ben, le milieu urbain, il y a quand même des possibilités d'activités. Il y a des plateaux sportifs qui sont adaptés, qui sont en plus grand nombre. Donc, à partir du moment où une école ou une commission scolaire a le souhait d'impliquer ces jeunes à faire plus d'activités physiques, les possibilités sont beaucoup plus nombreuses. En région éloignée, les possibilités sont moins importantes. Mm-hmm. On l'a notamment mis ça en avant dans certaines communautés proches de la ville de Gatineau. Par contre, lorsqu'on est en présence que ce soit d'écoles spécialisées, mais également d'intervenants qui ont minimalement une formation par rapport à ces clientèles-là et qui ont aussi les moyens financiers, humains, pour organiser des choses, et puis avoir vraiment de très belles choses qui peuvent se faire, et notamment, bon, on ne l'avait pas mis en lumière dans notre étude, mais dernièrement, il y a eu une belle activité de sport inclusif, de sensibilisation au sport inclusif à Baie-Comeau, fait par notamment des intervenants du milieu qui interviennent auprès de ces clientèles, et ça a eu un franc succès. C'était chapeauté par Choisir de gagner, mais encore une fois, ce sont des activités qui obtiennent un succès parce que la communauté est présente, parce qu'il y a des partenariats qui sont déjà en place et qui sont supportés par des organismes que Choisir de gagner. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de support et beaucoup de, je dirais, d'aide ou en tout
d'engagement,
cas, d'engagement, aussi. Mais des objectifs précis parce que c'est quand même quelque chose d'assez gros à organiser.
Oui, bien, on continuera à s'intéresser deux fois par mois à des initiatives pour encourager, pour soutenir les jeunes qui vivent avec une limitation fonctionnelle à de meilleures habitudes de vie, à la sensibilisation aussi à l'activité sportive et physique. Romain Hoult, vous êtes chercheur et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, vous étiez là pour nous parler justement de cette étude des facteurs qui agissent sur les habitudes de ces jeunes-là. Merci beaucoup de votre participation.
Ça fait plaisir. Merci à vous.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_m.
Bonjour Alain Vetteboncœur.
Bonjour.
Je vous surprends en pleine lecture. Oui. Je dois vous faire un aveu, j'ai beaucoup rêvé à vous dans derniers jours, oui.
C'est moi, c'est moi.
Je vous explique parce que je lisais votre dernier livre, « Les acteurs ne savent pas mourir ici » d'un urgentologue, avant de me coucher, donc dans mon lit. Et la nuit, je rêvais que je vous assistais, je réanimais des cœurs.
Vraiment?
Oui, certainement. Un petit peu quand on lit un livre policier, un roman policier ou quoi que ce soit, donc on est vraiment empreint du récit. Et je vivais des nuits quand même pas très reposantes, parce que j'étais prise dans cette adrénaline-là.
Donc, les images vous poursuivaient?
Oui, certainement. Et parfois, des images assez bouleversantes, parce que vous les décrivez plutôt bien dans ce livre-là. Vous qui travaillez, vous êtes chef du service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal, vous travaillez comme urgentologue depuis près de 25 ans. Vous avez voulu écrire ce livre-là. Pourquoi?
Ben, c'est une question que je me suis posée et qu'on m'a posée à quelques reprises. Je pense pas qu'il y a de réponse parfaite, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pour témoigner. de cette réalité-là, qui évidemment est,
qui
très, est très proche de moi, ma réalité professionnelle depuis 25 ans, où il se passe plein de choses, des choses intenses, des choses des fois difficiles, des choses aussi très heureuses, que les gens connaissent assez peu, de manière générale, je dirais. Donc, témoigner à la fois pour qui sont les gens qui font ça comme médecins, comme infirmières, comme personnel, pour les patients aussi, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce que les familles vivent. Donc, je dirais que c'est un peu un témoignage, une volonté de partager ces moments-là qui prennent beaucoup de place quand même dans ma vie.
Et quelque chose qui ressort beaucoup dans le livre, c'est cette, à mon sens, bien sûr, c'est cette dualité-là entre l'homme et le médecin. Il y a un passage qui m'a beaucoup marqué où vous relatez le passage, en fait, d'une jeune femme et de son père à l'urgence, gravement atteint dans un accident de voiture. Et le papa étant conducteur en état d'ébriété, il mentionne qu'il veut mourir. Et l'un de vos collègues lui répond, nous, on n'est pas là pour juger. Mm-hmm. Finalement, vous allez réussir à sauver le père, vous allez perdre la jeune fille et le père quittera pour la prison après son passage à l'hôpital. Ce rapport-là au jugement, je veux dire, le médecin ne juge pas, il soigne, mais l'homme peut juger. Comment on apprend à soigner sans juger?
Mais dans tout, dans ce métier-là, on est pris dans des situations très variées qui peuvent être émotivement très chargées, on comprend. Donc, il y a toujours la personne et le médecin qui doit soigner, hein, qui doit réussir, surtout à l'urgence, à fonctionner malgré cette charge émotive-là. Et la personne qui vit ça quand même, d'une certaine façon, surtout quand il y a des situations très particulières comme celle-là, quand il y a des morts d'enfants, quand il y a de la violence, c'est toujours, ça vient nous chercher. C'est difficile? Bien, c'est difficile. Ça fait partie du métier de composer avec ça. On n'a pas le choix. Hein. Il faut à la fois être capable de soigner la personne, peu importe qui elle est, peu importe ce qu'elle a fait. Il faut vivre les émotions qui nous traversent. Et des fois, c'est un peu difficile. Des fois, ça prend un peu de temps pour récupérer de ça. Mais c'est la définition même de ce qu'est un médecin d'urgence ou quelqu'un qui travaille dans un contexte comme ça. Il faut être capable d'agir malgré tout ce qui se passe, dans le fond.
Oui. Vous avez, et ça, c'est assez clair dans le livre, vous êtes arrivé à composer avec la mort. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose, on sent que vous êtes plutôt à l'aise avec ça, c'est-à-dire annoncer la mort à des gens qui viennent de perdre un proche. Êtes-vous à l'aise avec la vôtre? Parce que vous avez passé souvent près de mourir.
Oui, bien, j'ai constaté ça moi-même quand j'ai fait dans un chapitre la recension de mes mésaventures. Il y en a qui disent que j'en ai plus que la moyenne. J'avoue que je n'avais pas remarqué ça, mais en particulier du côté de l'automobile.
Les carottes aussi.
Oui, c'est sûr. Non, j'avoue que, bon, il m'est peut-être arrivé... Enfin, pas grand-chose finalement, mais des accidents. Mais composer avec la mort, ça vient graduellement. Ouais. On comprend que quand on commence, quand on est étudiant en médecine ou quand on est confronté à nos premiers arrêts cardiaques, c'est des expériences bouleversantes. À un moment donné, on se rend compte que ça fait partie un peu du métier, un peu comme un chirurgien qui va ouvrir le crâne d'un patient. Bien, quand il voit le cerveau, il ne se met pas à pleurer, là, il fait son métier. Donc ça, c'est la partie qu'on doit apprendre. On doit apprendre à composer avec ça. Moi, j'ai l'impression, puis je le dis dans le livre, que côtoyer les gens, la mort, ces expériences-là, m'a appris, je pense, à vivre avec une certaine sérénité, avec l'idée de ma propre mort. J'ai l'impression, je n'éprouve pas d'angoisse particulière par rapport à ça. Et je dirais que c'est peut-être aussi à force d'en parler, ouais, de travailler sur le sujet, de faire des textes là-dessus, d'explorer ce sujet-là, que dans le fond, j'apprends à mieux le connaître. Comme tout, hein, quand on parle de quelque chose, on s'habitue à cette chose-là d'une façon ou d'une autre.
Donc, on peut arriver à l'apprivoiser.
Ouais.
Ce qui est assez fascinant aussi à la lecture du récit, c'est quand il arrive quelque chose, soit à vous ou à l'un de vos proches, vous arrivez avec les symptômes très rapidement. Ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Donc, le médecin n'est jamais bien, bien loin.
On ne sent pas l'urgentologue de l'homme. Puis ça, inévitablement, ça colore tout ce qui est ma relation avec des symptômes, que ce soit les miens ou ceux des proches, quoi que ce soit. J'ai tendance à relativiser beaucoup de choses. Par exemple, avec mes enfants, c'est très rare que je m'inquiète. Et ce qui fait parfois enrager ma conjointe qui est infirmière, parce que dans le fond, je sais que la plupart des trucs qui arrivent aux enfants, c'est des virus, il n'y a pas vraiment de conséquences. Par rapport à mes propres symptômes, j'ai tendance à analyser très rapidement ce qui peut se passer. J'ai déjà eu ce qu'on appelle une diverticulite et j'en fais un petit bout de chapitre dans le livre où je pense que je n'étais pas un très bon patient parce que j'essayais de tout contrôler en même temps.
Et votre collègue qui vous dit « Trouve-toi un autre patient. »
Oui, il ne veut plus rien savoir de moi.
Un autre médecin plutôt.
Ou dans le récit, de dernier récit par rapport à mon père, où je suis à la fois le médecin et le fils. Et là, c'est peut-être moins évident parce que comme médecin, je vois venir les choses bien à l'avance des autres, dans ma famille, évidemment.
Ouais.
Je comprends les réalités cliniques Et là, il y a comme un décalage entre la personne qui vit des choses, des émotions, et le médecin qui continue à réfléchir. Donc, je pense que je vis assez bien avec ça, mais c'est une réalité, effectivement, qui est un petit peu particulière, un peu mélangeante.
Oui, la mort de votre père qui prend de la place dans ce livre-là, d'ailleurs, les dernières pages. Mm-hmm. Petite confession, j'ai reçu votre sœur, Hélène Vadeboncœur, qui était à votre place il y a de ça quelques mois, chercheure en périnatalité. Et hors micro, pourquoi on ne connaît pas toujours l'origine des conversations, elle m'a parlé de la mort de votre père et m'a dit « Une chance qu'Alain était là ».
Ah bon?
Et on le comprend bien dans le livre, et c'est ce qu'elle me racontait aussi, parce qu'il y a cette compréhension-là de l'hôpital, de comment ça fonctionne, de pouvoir doser, tout ça. Ça a dû aider quand même le décès de votre père, cette connaissance-là de la médecine.
Bien, aider, probablement pour mes proches, oui, jusqu'à un certain
point. Pas nécessairement pour vous.
Bien, pour moi, c'est un peu complexe, parce que, par exemple, moi, en plus, il y a dans un hôpital, l'hôpital général juif, où je connais pas mal de monde, dont les médecins d'urgence. Et évidemment, on me montre les choses. Hein, comme médecin, donc, je travaille à l'hôpital moi-même, on me montre quand le scan est fait, mettons, on me le montre, le scan du poumon. Et moi, je suis capable de lire les examens. Donc, je regarde ça, l'image, je me dis « Oh my God, cette pneumonie-là est catastrophique. » Oui. Et ça, c'est une information qui, d'habitude, ne se rend pas de cette forme-là jusqu'à un proche. Là, c'est pas filtré du tout. Donc, je dois vivre à la fois le cas clinique, qui est, bon, une pneumonie, qui va affecter mon père pendant 2 semaines au point ça devient irréversible à un moment donné. Et le fils qui vit en même temps ce parcours-là. Donc, c'est un peu particulier.
Et qui doit faire son deuil aussi.
Et qui doit, qui avance vers le deuil, donc qui est dans la tristesse, la déchirure que ça cause. Donc, mais ça, c'est un... J'ai l'impression que le métier d'urgentologue permet de vivre ça relativement... On est toujours là-dedans. Mm-hmm. On est dans des émotions déchirantes avec une famille qui vient de perdre un proche. 2 minutes après, on voit un cas loufoque, 10 minutes après, on mange, on prend un café avec le personnel. Autrement dit, on est toujours en train de changer et de voir plusieurs aspects de la réalité. J'imagine que ça peut aider, mais c'est sûr que ça ouvre des portes à une connaissance très particulière de ce qui se passe avec son père ou avec d'autres gens.
En tant qu'urgentologue, on vous demande de sauver des vies. Quel est le rapport avec des gens qui arrivent à l'urgence parce qu'ils se sont enlevés la vie? Et ça, vous le décrivez aussi dans le livre.
Ça fait partie, surtout quand je travaillais dans une urgence générale à l'époque, c'est quelque chose qu'on voyait quand même assez souvent. Et là, ça peut être soit essayer de s'enlever la vie. Évidemment, si la personne réussit, bien là, c'est de la réanimation. On n'est plus du tout dans la même sphère. Mais je voyais aussi beaucoup de patients qui voulaient attenter à leur jour. Et comme médecin, on a la responsabilité d'empêcher ça, ce qui est un pouvoir un peu particulier. Parce que moi, je peux contraindre quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours, ben vous êtes en dépression, vous n'êtes pas un malade terminal, là. Je vais vous empêcher de faire ça. Mm-hmm. Jusqu'à ce qu'un psychiatre vous voie, par exemple, s'il y a une dépression sévère. C'est un peu... cette relation-là avec les patients, c'est complexe, là. On a des responsabilités face aux patients qui sont très étendues. Mais évidemment, au-delà de tout ça, c'est toujours la famille et les proches qui... Où il y a une intensité, peu importe de quoi on parle.
Les acteurs ne savent pas mourir ici d'un urgentologue. Il faudrait que vous reveniez pour nous parler de l'origine du titre. Parce qu'on a déjà
un titre mystérieux.
Oui, tout à fait. Ben, ça vaut la peine de le lire, édité chez Lux. Ben, merci beaucoup, Dr. Vadeboncœur. On peut vous lire également dans le blog de l'actualité.
Oui, merci à vous.
On se retrouve demain. Bye-bye.